pousser un peu fort, je pense, maintenant. Bon, je vais faire avec. Et on ne peut pas régler le volume. Ouais. Donc,
on va le faire en passant par le 400.
Et sur Keynote, il ne va pas y avoir de volume non plus. Et comme on n'a plus le volume de sortie là, parce qu'on est sur la carte.
Ça va être super fort.
Normalement, en fait, sur le driver, il nous permet normalement de régler, mais.
Pas pratique, c'est dans le
transfert. Normalement, il y a un réglage de volume là.
Là-dessus, t'as pas.
Si t'as un master volume main,
ouais, mais il
ne marche pas, c'est ça?
Ouais.
Master mute.
Là j'en ai un. Je vais faire ici, c'est bon. Donc voilà.
C'est une réalité, c'est pas celle qu'on vit quotidiennement. Donc c'est une autre. Là où je veux en venir, en fait, c'est que les environnements virtuels, les réalités virtuelles, c'est comme ça que finalement on les nomme, elles n'ont pas pour particularité de recréer la réalité. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Elles créent un autre type de réalité. Donc la voie qu'on essaye d'explorer, c'est celle d'un rapport encore plus étroit entre l'application et l'expérimentateur. De manière explicite, ça consiste finalement à lui laisser un plus grand choix, en tout cas une plus grande autonomie au niveau de ce qu'il va pouvoir être amené à découvrir dans le monde. C'est-à-dire que de moins en moins, on va façonner le monde d'une manière stable, et ce monde va évoluer en permanence en fonction de l'attitude de l'expérimentateur. Donc c'est dans ce sens-là qu'on rejoint un petit peu on renoue un espèce de dialogue avec le public, c'est qu'en fait on n'est plus en train d'essayer de lui imposer quelque chose dans lequel il doit s'adapter, c'est que finalement on va essayer de fabriquer de plus en plus des expérimentations dans lesquelles c'est l'expérimentation elle-même qui s'adapte au public, de manière à ce que finalement ils puissent s'investir de plus en plus et retrouver peut-être une espèce de promiscuité comme ça entre guillemets avec les œuvres. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas c'est vrai que c'est pour nous et pour moi particulièrement pour les gens qui travaillent peut-être dans ce type d'environnement, enfin moi je suis vraiment parti dans cette voie-là. C'est vrai que donc on a, comment on va expliquer ça, c'est-à-dire qu'on a décidé donc avec le CCV de présenter l'installation donc en réalité virtuelle donc ensemble. Et il a fallu que je trouve un mode de fonctionnement qui corresponde aussi à l'idée qu'on avait de ce type d'installation, puisqu'il s'agissait aussi d'impliquer les gens de la vallée ici et ainsi de suite. Donc ce que j'ai trouvé moi comme principe pour à la fois perturber leur vision du monde et puis leur faire visiter un peu l'endroit où ils habitent d'une manière différente, bah, c'est de leur fabriquer des êtres. Hein. Ça, le principe, c'était à partir du moment où j'ai décidé de ce principe, pratiquement tout le reste, en ce qui concerne la manipulation de l'environnement, en découle en fait.
Voilà, donc le principe, c'est de leur donner des ailes. Donc c'est ça, assez intéressant comme vision. Et je voudrais juste vous faire entendre un petit passage où j'explique un peu le fonctionnement du son à l'époque, en fait.
Alors, l'expérience que j'ai faite de travailler avec Yvan pour cette installation a été très très intéressante pour moi parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que travaillaient l'une avec l'autre de façon complètement interactive. Et nous, on était devant les machines et on se parlait. Ce qui fait que Yvan me disait « Et si je t'envoie ça, qu'est-ce que tu fais ?» Alors moi, je tapais sur l'ordinateur, je configurais les programmes, les sons, pour ça, et puis je disais « Je te fais ça, je t'envoie ça. » Alors il me disait « Ah ouais ?» Et bien maintenant, si je te fais ça, qu'est-ce que tu demandes ? Alors comme ça, on a essayé, et ça c'était extraordinaire, c'est qu'on a essayé toutes sortes de choses. Là, en l'occurrence, on va plutôt chercher à ce que, selon le parcours qu'on va faire, la musique réagisse et se modifie en temps réel. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps être en mouvement, et c'est selon la navigation qu'elle va se manifester. C'est ce que j'aime appeler la navigation sonore. Et à chaque objet du monde, on a imaginé quelque chose comme ça. Au moment où on arrive dans le soleil, on est prisonnier dans ce soleil qui explose partout. Alors on a imaginé pour ça une espèce d'enchevêtrement de son parmi une bande très large de différentes sonorités. Et quand on rentre dans le soleil, ça explose. On entend tous ces sons. Et puis quand on retombe, les sons retombent comme si. Des débris et pas. De la même façon, quand on traverse le portrait, le fait de traverser un portrait, c'est comme si tout d'un coup, cette espèce d'image, de feuille, de plaque, passait au travers de notre tête, et forcément, ça produit quelque chose, ça produit un son. Hein. L'image ne s'approche pas comme ça impunément des oreilles sans produire du son. Alors, donc j'ai essayé comme ça de...
Bon, bref, voilà. C'est un peu un vieux truc, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des préoccupations qui se rejoignent. Donc j'aimerais vous montrer un autre dispositif qu'on a fait quelques années après avec Xavier Boissary. Là aussi, alors c'était pas de la réalité virtuelle, puisqu'on n'avait pas de casque, etc. Et je vous montrais IKEA, parce qu'aujourd'hui, en fait, la réalité virtuelle est en train de reprendre beaucoup. Et notamment, vous avez vu la qualité de l'image et la vitesse de... Bon, là, en plus, la vidéo est bien pourrie, mais on était quand même dans des résolutions qui étaient assez mauvaises, quand même. Et pourtant, Yvan était très habile parce qu'il avait réussi à négocier avec Silicon Graphics. Quand il recevait des grosses machines qui étaient envoyées dans des gros centres de calcul, on allait récupérer à l'aéroport à Roissy, on les amenait à l'IRCAM, où on avait fait une présentation, avec les ingénieurs système, on vidait la machine, on installait tout dessus pour avoir toutes les priorités dessus, pendant la nuit. On faisait tourner Icar dessus, c'était des énormes bestiaux. Hein. On remettait l'OS, et puis ça repartait dans les banques, ou dans les trucs pour la recherche pétrolière, je ne sais pas quoi. Et et on arrivait à cette résolution-là, donc c'était pas très... Voilà. Alors ça, c'est quelques années plus tard. Au même moment, Yvan Chabanneau avait Icar sur son laptop, déjà. Donc ça a évolué très, très vite. Et là, c'est Bandoneon, donc avec Xavier Boissary. Donc je vous montre la vidéo, parce qu'elle explique tout. C'était au Cube.
Bandoneon est né au départ de l'idée de réaliser une ville à partir de uniquement construite à partir d'éléments lumineux, c'est-à-dire des ampoules, des néons, des véhicules, des feux de véhicules en circulation, des fenêtres d'immeubles, etc. Mais de ne pas avoir d'objets de surface autres que les éléments lumineux.
La complexité apparente, en fait, vient surtout de l'indépendance des éléments les uns par rapport aux autres, et du fait qu'ils réagissent individuellement par rapport à la position et au mouvement de l'utilisateur. Dans la navigation et l'interaction avec son environnement, l'idée c'était d'impliquer tout le corps, donc en jouant sur l'équilibre, pour partir un peu dans l'idée du surfeur d'argent, voguant dans un espace d'information, de lumière. Et donc on a la sensation de vivre par le mouvement, par la déambulation. Et quand on est fixe et immobile, on n'existe pas.
Ce qu'on souhaitait, c'est produire quelque chose qui soit
pas du tout naturel, qu'il soit quelque chose qui appartienne davantage au domaine du rêve. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer la ville d'une certaine manière. J'utilise ce terme à dessein puisque c'est la raison du titre que nous avons choisi, qui est Bande au néon. La ville devient en quelque sorte un instrument dont on va jouer. Toutes ces parties lumineuses, en fait, les fenêtres, les objets, sont comme des touches d'un instrument de musique. Et c'est en parcourant ces touches qu'on fait jouer la musique de la ville. On a des interactions avec les objets et ces interactions.
Voilà. Donc, on retrouve en fait le côté rêve qu'il y avait dans Icar, en fait, mais dans une autre situation. Et donc, c'est voilà, là un petit peu une vision intérieure de Bandoneon. Avec le son, on entend un peu le réglage de niveau est un peu subtil. Donc en fait, on a une espèce de cible qui est une vision qu'on voit ici. Vous voyez ? Ça, c'est notre avatar, en quelque sorte. Voilà. Par exemple, il y a beaucoup de lumière, mais il y a très peu de son. Pourtant, ça a l'air synchrone. Donc l'idée, c'est d'en prendre seulement un parmi ceux-là qui va être maître. À chaque fois, c'est des petites astuces comme ça. Quand on traverse la façade, on retrouve la façade. Quand on la retraverse, on la retrouve, etc. Un peu plus tard, donc, j'ai travaillé sur des applications pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça, malheureusement, il y a eu une V2 de Music Lab qui a bien marché. C'est des applications MIDI. Si ça vous intéresse, je peux vous les donner. Mais elles ont été très peu diffusées parce que la V2 a été faite et plus IRCAM. C'était pour l'IRCAM, là. Et ils ont trouvé que c'était un peu trop joué. C'était un peu trop un joujou. Le seul problème, c'est que c'est le seul truc qui marchait vraiment. Parce que la version 2, elle n'a jamais vraiment marché. Où elle fait des trucs tellement compliqués que les écoles ne s'en servent pas. Donc finalement, ils ont coulé le truc. Ce qui est un peu dommage. Parce que ça. Donc en fait, on a un step séquenceur en haut à gauche. Un générateur de stochastique, donc de son granulaire. Un générateur de trame, un outil pour explorer les échelles non tempérées et les questions de gamme non tempérées, et puis une boîte à rythme, en fait, mais avec dont la principale particularité, c'est que l'interface, en fait, intuitive, permet de découvrir les concepts musicaux. C'est-à-dire que c'est en manipulant l'interface qu'on comprend les concepts musicaux. Et c'est pour ça que c'était un projet pédagogique.
C'est quoi un générateur de trame ?
Oui, en fait, on produit une note tenue, puis une autre, puis une autre. Puis, donc on peut en mettre jusqu'à 4, et on peut moduler en fait l'intensité et la hauteur. Donc on peut avoir quelque chose qui fait... Et l'autre. Donc on peut vraiment jouer comme ça sur des hauteurs. Mais c'est assez basique, hein. C'est du MIDI. Mais c'était vraiment fait pour, dans les classes de collège et de lycée, les élèves sur les ordinateurs puissent faire de la musique. Donc il y avait quelques arrangements en fait, que j'avais fait pour ces dispositifs. Il y avait Music for 18 de Steve Reich pour Polycycle, le premier en haut à gauche. Il y avait une pièce de Xenakis pour le deuxième. Hein. Puis il y avait un travail sur le Reynolds, les sons qui montent à l'infini ou qui descendent à l'infini. Voilà. Comment tu dis
Machin Shaper, je ne sais plus comment.
C'est pas Shaper, mais c'est quelque chose comme ça, oui. Reynolds, Fischer. C'est.
Hein?
Non, ça c'est, non, c'est visuel, vivant. Mais l'inventeur de. Mais voilà, mais tout ça, ça vient d'un inventeur qui s'appelle. Ils sont deux, Reynolds et Shaper. Un truc dans ce genre-là. Shepard.
Ouais.
Shepard.
Ouais, c'est
ouais, Shepard. Shepard,
ouais,
Shepard Reynolds. Ouais, voilà,
c'est ça.
Ouais.
Il y a
des trames dans le vocabulaire shepardien, c'est ce que vous appelez les ondes. En fait.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. D'ailleurs, on en a fait plein, en fait, ensemble.
Ouais.
Voilà. Alors ensuite, on avait ce projet donc avec le CEA qui fabriquait un bras articulé à retour d'effort qui était surtout utilisé pour manipuler de la matière nucléaire. Mais ils étaient devenus tellement habiles dans la fabrication de ces dispositifs qu'ils ont monté un projet de recherche pour essayer d'en faire autre chose, des jeux ou de la musique. Donc ils ont contacté l'IRCAM. Ils se sont mis ensemble avec, ils ont créé une société pour développer ces bras qui s'appelait Aption, et ils ont travaillé avec des gens qui étaient spécialisés dans la programmation de l'interaction temps réel, qui était l'entreprise Ondim. Et j'ai été en fait responsable artistique de ce projet, qui a été présenté au Centre Georges Pompidou en 2004 pendant 3 mois à l'exposition Écoute, qui est l'espace des enfants, en fait, au rez-de-chaussée. Donc ça, c'était génial. Une fois dans ma vie, j'ai un truc au Centre Pompidou, donc c'était top. Et donc l'idée, alors c'est assez marrant parce que on tient le bras articulé dans la main et on a au loin, vous voyez, une tête d'écriture qui écrit dans une espèce de sillon de vinyle géant, qui est un peu comme l'intérieur d'un corps, comme la planète Mars, et qui écrit des notes qui sont des petites touches de lumière. Et puis nous, on tient dans le bras articulé la tête de lecture. Et on fait une course-poursuite pour rattraper la tête d'écriture. Ça veut dire qu'il y a un retard, en fait. Comme s'il y a un maître qui jouait de l'image, c'est le maître qui joue du tabla et l'élève qui imite derrière et qui essaie de jouer aussi vite et de dépasser le maître. Voilà, c'est ça le jeu. Donc c'était un jeu. Et on était en octophonie, en stéréoscopie, complètement dans le truc, quoi. On l'a montré au cube, on l'a montré pas mal en fait, il a pas mal tourné. Sauf qu'au bout d'un moment, les appareils étaient tellement chers qu'on ne pouvait plus le tourner. Alors on a fait un film, donc il reste encore quelques. Ah, quelle horreur. Comment je fais pour accéder au bouton? Je ne peux même pas. Le bouton n'apparaît que quand je fais play, quoi. Bon, bouchez-vous les oreilles. Et à chaque fois, quand je clique à côté, ouais, je pense que c'est mieux si on peut faire ça parce que là, on va juste péter les oreilles.
Il faut deux câbles. Jack, ça marche pas.
Non.
Ouais, ça a l'air d'aller, ça. C'est un peu comme.
Non.
Ah non, c'est du mal. Et ça, c'est
du mal.
C'est
de l'air
de voir. Un film quelque part. Et là, super. Sur une tranche de haut.
Génial. Ah, par contre, il y a un truc bizarre.
Ah, parce qu'il y a un très
mauvais. Ah oui. C'est bon, hein.
Non, tu
peux juste le quitter, voilà.
Ah, c'est ça.
C'est toi qui t'en es servi hier.
Vous voyez, en fait, c'est un bras articulé à retour d'effort, ça veut dire qu'on sent dans le bras le terrain. Et donc, il faut se mettre bien dans le sillon, et puis pas trop appuyer pour pas bloquer le disque. Voilà. Donc là, on se met bien dans le sillon et on laisse le disque se mettre en route comme si c'était un lead disque très lourd. Et mais quelquefois, dans les virages, on peut pousser sur les virages pour le faire accélérer. Et donc, voilà, c'est vraiment un ride, hein, une espèce de course-poursuite. Donc là, en fait, ce qui est particulier aussi, c'est que ce n'est pas un jeu au sens purement performatif. On peut avoir une approche contemplative comme une approche performative. C'est ce qui distingue en général ce qu'on appelle un jouet d'un jeu. Et donc là, on peut s'arrêter pour jouer avec les objets au bord de la route. La tête d'écriture s'arrête un peu plus loin et attend qu'on ait fini de jouer, quoi. Et puis après, on peut refaire la course si on veut.
Donc là, on peut rester sur une note presque.
Oui, absolument. Voilà, là par exemple. Donc là, on l'entend en stéréo, mais c'était en optophonie, un petit peu comme ce qu'on avait entendu avant, avec cette matière en fait où on a des temps très courts qui bouclent. Donc on est vraiment dans la matière qui a une vie déjà, mais qu'on peut vraiment complètement manipuler également. Donc là c'est plus compétitif là. Là, il a rattrapé une première fois. À chaque fois qu'il rattrape, ça fait une gerbe de particules sonores. Et à chaque section en fait, de la route, on a des comportements sonores différents, musicaux différents. Et des choses plus étranges, des choses plus appuyées, plus on pourrait dire héroïque, plus voilà, petit extrait. Dans la même idée, on a travaillé à l'ENSI quelques années plus tard sur un projet de recherche qui s'appelait Enigme pour expérimentation de nouvelles interfaces gestuelles pour la musique et le son. Et on a exploré en fait une notion que j'avais appelée la partition navigable. Donc pourquoi une partition navigable ? Parce que traditionnellement les partitions c'est sur le piano par exemple ou sur le pupitre, puis l'instrument est séparé. À partir du moment où l'image devient interactive et nous permet de créer des interfaces qui sont qu'on peut manipuler comme des instruments, eh bien on peut considérer en fait l'écran comme une partition. Et on peut développer en fait des partitions qui sont aussi des instruments. Et donc on a voulu aller voir un peu ce qu'on pouvait faire avec ça. Alors c'est évidemment limité, mais il y a tout un domaine encore à explorer dans ce champ-là qui reste peu exploré encore. Il y a le Gramme de Lyon qui travaille sur ces sujets-là, et quelques autres, mais très peu. Donc là, par exemple, l'idée, c'était de travailler sur des têtes de lecture multiples. Donc c'est un designer, un jeune designer qui s'appelle Johan Olivier, qui était avec moi sur ce projet, qui a développé cette idée, qu'on a ensuite réalisée avec des groupes de têtes de lecture qui déclenchent par collision des événements sonores, des échantillons qui sont associés à ces espèces de plumes qu'on voit, ces formes allongées jaunes et qui peuvent être d'une autre couleur également. Et on peut avoir plusieurs têtes de lecture. Donc ça, c'était un exemple des quatre projets sur lesquels on a travaillé. On voit ici un deuxième qui est... donc là, ça reprend un petit peu ce qu'on avait fait dans Phase, mais cette fois-ci avec une interface physique. L'idée, c'est d'utiliser une tablette graphique, mais de mettre dessus un guide pour que le stylet puisse se déplacer de façon assez précise pour jouer vraiment de la musique. Je suis à côté, alors c'est pas un bon exemple en fait. Et donc le fait qu'on soit dans le guide, ça nous donne beaucoup de précision en fait. Donc chaque cercle concentrique contient un échantillon de son qui est déployé, vous savez, avec un système de synthèse granulaire, c'est-à-dire de petites, toutes petites boucles à un instant du son, on peut se déplacer dans la séquence sonore. Donc ça devient un instrument, en quelque sorte. Et alors, autre travail qui a été fait cette fois-ci par... donc ça, c'était Marine Rouit, qui était élève d'Alency à l'époque, qui est devenue designer d'interaction. Et là, c'était avec Morin Donneau, dont le projet de diplôme était cette toile XY, qui permettait, en plaçant le doigt, de relier une trame verticale et une trame horizontale de fil semi-conducteur, et donc d'établir un contact qui nous donnait une position en X, Y. Donc grâce à ce système-là, Marco Marini, qui est compositeur, qui est responsable de la classe de musique électroacoustique de Pantin, a créé une pièce qu'il interprète sur la toile et qu'il a amené ensuite à développer d'autres applications. Notamment, il a travaillé sur Agrigent, sur le tableau de Nicolas de Staël, au musée de Staël à Nantes, je ne sais plus où c'est exactement. Et il a fait une pièce sur le tableau. Alors, il jouait pas littéralement sur le tableau, mais sur une reconstruction du tableau, à côté du tableau. Et donc là, on voit les premières expérimentations, où là, vous voyez, c'est les dessins des composants de la partition. Donc les composants de la partition ont été peints sur la toile. Donc chaque figure correspond à un son de la pièce. Donc si on parcourt horizontalement, on se déplace dans le temps du son, et si on relâche, le son s'arrête. Sauf pour les trames qui sont sur la droite de l'écran. Donc il y a quatre trames qu'on peut mettre en route, on et off. Donc, ce qui permet d'avoir deux voies en fait. Ouais, il faut appuyer un petit peu, mais après ils ont perfectionné le système. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'autres choses depuis. Donc, ça c'était en 2007. Voilà l'idée de la partition navigable, donc le projet Enim. Voilà un exemple en fait de. Pardon. Là, on a une partition navigable. Bon, j'ai pas le. Il faudrait que je l'ouvre comme ça. Version flash. Donc, je peux jouer la partition juste en rollover. Je peux sauter ou revenir en arrière. Donc j'ai vraiment un repérage graphique. Voilà, qui me permet de repérer un peu des variantes comme ça. Et ça, c'est ce que ça a donné au final avec une application donc, qui permet de jouer en concert en fait, à la manette de jeu. Avec un gros joystick comme ça, avec l'image qui défile en fait sur l'écran. Donc on voit un extrait de Sim de Mathieu Savary qui reprend la même pièce que ce qu'on vient de voir en version concert. Il y en a deux qui tournent en même temps. Mais ça donne une idée. Voilà. Alors, ensuite, on a développé un projet de recherche. On se donne encore jusqu'à 12h30, ça vous va ?
Oui.
Qui s'appelle Topophonie. Et c'est, ça, c'était 2009-2012. Alors, voilà, l'idée était la suivante. À travers les différents exemples que je vous ai montrés précédemment, on voit que la relation enfin, entre l'espace et la visualisation et le son fait sens, c'est-à-dire qu'on a dans cette notion de navigation sonore ou d'audiographie un potentiel domaine en fait de création ou de développement et de développement, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses très fonctionnelles qui peuvent être réalisées, mais aussi des choses très artistiques. Et on a essayé d'identifier ça comme un domaine. Alors j'ai utilisé le terme de topophonie. Ça veut dire lieu-son, donc ça veut dire le son du lieu ou le lieu du son, enfin, voilà, peu importe. Et l'idée de ce projet de recherche, donc, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, c'était de travailler sur la manière dont on peut articuler dans l'espace les sources sonores. C'est-à-dire, quelle est l'architecture des sources sonores dans l'espace ? On pourrait dire, par exemple, ici, dans cet espace-là, il y a la source sonore du vidéoprojecteur, de moi qui parle, et puis des haut-parleurs. Et puis les bruits que chacun d'entre vous ou nous faisons avec nos sièges, nos mouvements, etc. Et puis, de temps en temps, on entend un avion qui passe. Voilà. Et ça crée en fait une topophonie, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot, il y avait déjà des artistes qui l'utilisaient. Je m'en suis aperçu un peu après, mais voilà, ce n'est pas un problème. Une des choses qui m'avait beaucoup intéressé et attiré, c'était le livre de Bruce Chatwin qui s'appelle The Song Lines, les chants des pistes, dans lequel il montre comment les aborigènes d'Australie, depuis très très longtemps, ont cette tradition de parcourir les chemins en chantant et en fait se construisent à force de parcourir tous ces chemins une espèce de carte du territoire très, très étendu, mais chaque chemin est associé à un chant. Pourquoi ils font ça ? Parce que leur mythologie, apparemment, dit que les dieux ont créé la terre en la chantant. Elle a été créée comme un chant. Donc, à mesure et donc en chantant, ils ont créé la terre, et donc leur rôle aujourd'hui, c'est de la recréer. Et pour ça, il faut qu'ils reparcourent et qu'ils rechantent. Donc,
l'entretenir ou la recréer ?
C'est l'entretenir et la recréer. Voilà, je ne sais pas, ça doit dépendre des interprétations, mais je ne connais pas les détails. Mais en tout cas, en repassant à cet endroit-là et en chantant le même chant, alors c'est jamais tout à fait le même, mais ça, ils ne le disent pas forcément, la terre va être recyclée, voilà. Ce qui fait qu'ils ont une espèce de vision cartographique associée à des champs. C'est assez étrange pour nous. C'est aussi étrange pour nous que peut l'être l'idée pour un Chinois qu'on associe un son avec une lettre. Donc ces questions-là sont quand même culturellement assez complexes. Est-ce que le son c'est de l'espace ou c'est pas de l'espace ? Est-ce que c'est du visuel ou c'est pas du visuel? Est-ce que c'est du sens ou c'est pas du sens? Tout ça est quand même très très divers selon les cultures. Donc pourquoi pas se créer une culture topophonique, finalement, hein, contemporaine. Donc l'idée c'était de cultiver un peu ce jardin-là. Et donc je vais vous montrer un petit peu. Alors c'est une vidéo.
Vous avez sans doute remarqué que dans la vie quotidienne, les sons sonores nous entourent. Leur position relative et donc leur mixage évolue en fonction de nos déplacements. C'est ce que nous appelons la navigation sonore. Mais dans les jeux ou les dispositifs virtuels, la navigation sonore est souvent très simplifiée, car réalisée à partir d'un petit nombre d'enregistrements. Certains objets massifs comme les foules, le vent dans les feuillages, la pluie ou la circulation routière ne sont par conséquent crédibles que si le visiteur ou auditeur ne se déplace pas. Nous voulons donc faire en sorte de rendre crédible et expressif ce type de son dans les environnements numériques navigables. Nous avons travaillé sur une maquette de pluie. Il s'agissait de rendre les effets audiographiques des gouttes de pluie percutant différents types d'obstacles. Une rue, une flaque d'eau, un abribus et un palmier. On représente les différents effets sonores grâce à des objets graphiques qu'on appelle des profils. Chaque profil correspondant à un son différent, par exemple ici pour les impacts de la pluie sur les différents objets qui composent la scène. Nous avons réalisé une maquette de simulation du paysage sonore habité par un véhicule électrique et hybride de demain.
Donc là on a des profils de source avec les pavés.
Nous proposons ici également une nouvelle signalétique des véhicules grâce à des faisceaux signalétiques directionnels placés à l'avant du véhicule, produisant un effet moins intrusif et plus efficace que la signalisation actuelle. Puis nous avons travaillé sur le son des feuillages, plus précisément sur différentes manières d'activer le son des feuillages.
Donc ça, c'est pas les profils de source.
Profils d'activation. Voilà. Ici, profil. Le passage du corps du feuillage, le passage de la caméra et le passage du ventre. Différentes variétés de feuillage dans différentes conditions avec différents gestes pour constituer une collection de sons. Le profil d'activation est ici figuré par la forme du curseur.
Donc là, on a un profil d'activation linéaire ou ponctuel.
On a comparé deux profils d'activation différents, un profil d'activation linéaire et un profil d'activation ponctuel. Les résultats montrent que la différence est très sensible au niveau du ressenti audiographique. Puis nous avons tenté de renouveler la même expérience, mais cette fois dans une scène 3D. Premier plan, des clusters d'activateurs rencontrent des clusters de sources, ce qui nous permet de produire des interactions audiographiques très détaillées, point par point.
Donc ça c'est un modèle de vent.
Sur le plan sonore, le logiciel Qatar nous permet de disséminer les composantes sonores en fonction de leur timbre et de naviguer à l'intérieur.
Alors j'explique. Là, tous les petits points qu'on voit, c'est pénible ce truc.
Vous avez sans doute remarqué
oui, j'ai remarqué, merci.
Il faut que j'appuie sur le logiciel.
Ouais. Donc, ce qu'on voit ici, c'est chaque point correspond à un petit grain de son. C'est un son de feuillage qui a été coupé en petits morceaux. Et chaque petit morceau est analysé. Et selon les composantes, donc là, les composantes qui ont été sélectionnées, on le voit ici, c'est spectral, je ne sais plus quoi. Donc, il y a une composante de spectre et de périodicité et de loudness. Donc, la couleur, ça doit être le loudness, la force, j'imagine. Je crois que c'est ça. L'axe des Y, c'est la périodicité. Donc, plus c'est haut, plus ça va être tonique. On va entendre une note. Plus c'est basse, plus ça va être bruité. Et puis, en haut, c'est le spectre. Donc, je pense que ça va être plutôt le... ça va être plutôt aigu à droite et plutôt grave à gauche, voilà, en gros. Je pense que c'est... Ah.
Vous avez sans doute...
Oui.
...les composantes sonores en fonction de leur timbre et de naviguer à l'intérieur. L'application Topophonie Mobile présentée lors du festival Futures en Scène est une promenade sonore interactive parmi les sources et les torrents virtuels disposés dans le parc de Belleville.
On a une modulation continue du son, en fait, à la différence des promenades sonores où on a des points. Là, ça change en continu. Et donc, les sentiers sont des ruisseaux, les escaliers des torrents et les murs des cascades. Et les plans des mares. Et ce n'est pas juste du mixage de sources, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on utilise le travail de Dimo Schwartz, Cathart, qu'on a vu juste avant, pour avoir vraiment une évolution continue en fait, à l'intérieur des timbres de son. Donc, ce qui crée une expérience assez intéressante, parce que bon, moi, au début, je n'étais pas du tout convaincu qu'on allait... c'est mon camarade Xavier Boissari qui voulait faire ça. Je me suis dit, ouais, bon, une balade sonore dans un parc avec de l'eau, des bruits d'eau, ça fait pipi et tout ça. Et en fait, quand j'ai fait l'expérience, après avoir fait tout le travail avec lui, j'ai vraiment découvert le parc autrement. J'ai vraiment eu un vrai bonheur de promenade, quoi. Comme si je voyais le parc pour la première fois d'une autre manière. Ça, c'était quand même très intéressant. Donc, ça a donné lieu à une application qu'on peut télécharger, mais il faut aller au parc de Belleville pour la jouer. On a également travaillé sur cette notion de métropole organique faite avec, comme on a vu tout à l'heure avec Cathart, les petits grains de son. Là, c'est des petits grains de son mais qui ont une forme graphique, et donc du coup on crée des formes graphiques à partir des grains de son et des composantes des grains de son, donc qui nous permettent en fait de, voilà, par exemple là on revoit un petit peu ce qu'on voyait en Cathart tout à l'heure, les petits grains, sauf que là on les a organisés dans un espace de jeu de façon à ce qu'ils soient équidistants, mais qui conserve en fait les propriétés sonores des éléments précédents. Et ça nous donne ça, un jeu pour les enfants.
Quand je reviens, je me retrouve...
Tu connais. Avec Eric Bratman qui est là... et qui anime la séance.
Thank you.
principe. La particularité, c'est que les grains, en fait, sont, ce qu'on voit, c'est les grains de tapioca. Il y a une caméra en dessous, et ça, en fonction de la transparence, ça crée un terrain. Ça déclenche les événements. En fait, enfin, ça a deux fonctions. Soit ça crée un terrain, soit ça déclenche les événements. Ça déclenche les événements si la transparence dépasse un certain seuil. Voilà, c'est assez simple. Alors, chose qui vous intéresse peut-être, puisque vous faites partie de ceux qui vous intéressent à la radio, on a à l'ENSI développé tout un travail autour de la radio depuis maintenant à peu près 5-6 ans. Sauf qu'on est beaucoup moins assidus que vous, malheureusement. Et donc, ça a été surtout la création d'une association Radio Toki qui travaille sur de la radio, mais aussi sur des applications de parole, en fait, autour de la parole, et qui est animée notamment par Zoé Argueter. Et ils ont maintenant créé une association et une société pour travailler dans des, par exemple, de la remontée de l'information de parole. Ils ont installé sur la place de la République récemment un portique avec un micro où les gens ont enregistré des réactions pendant la nuit debout. Quand il y a eu après Charlie Hebdo, l'attentat, comme c'était juste derrière chez nous, ils ont aussi installé là un portique pour avoir aussi des échanges. Et puis ils ont créé toutes ces émissions de radio très intéressantes que je vous conseille d'écouter parce qu'elles sont vraiment pas mal. Donc moi j'avais un peu suivi, je les avais un peu aidés à mettre en place tout ça. Et puis plus récemment, on a créé ce projet qui s'appelait U-Design Radio. Et l'idée, c'est de faire une radio pour le design, pour les élèves des écoles de design, en anglais pour des écoles européennes. Et on a été à Milan l'année dernière, où on a fait plusieurs jours de radio, un événementiel, un petit peu comme ce que vous avez fait au Palais de Tokyo, mais dans le cadre d'une conférence internationale sur le design qui s'appelle Cumulus. Donc, si ça vous intéresse d'écouter, puis vous verrez que si vous allez sur le site de U-Design Radio, on trouve les programmes, donc il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a quelques-uns. Et puis il y a quelques liens, notamment Radio, voilà, que vous pourrez retrouver. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter très bientôt. Je sais qu'on a... Bon, j'avais beaucoup de choses à vous montrer sur des projets de l'ENSI. Mais je vais juste laisser défiler. Ça, c'est des projets d'élèves, en fait, ou des choses qu'on a fait ensemble, dans lequel il y a du son. Donc, on voit qu'il y a des systèmes, il y a des enceintes, il y a des dispositifs de toutes sortes. Mais voilà, si vous avez des remarques, des questions, des trucs qu'on peut se dire rapidement avant de finir. Ça, c'est un poste de radio, à droite, là. Enfin, deux postes de radio. Décidément, ça, je me fais avoir à chaque fois. Donc là, par exemple, à droite, le auto, en fait, c'est en papier. Il y a un vibreur et ça se fait par commande tactile sur le papier. Donc, tout le choix des chaînes et le réglage de volume.
Tu sais que vous restez ce soir.
C'est FM,
FM, oui, c'est une radio FM. Là, c'est une veilleuse. Là, c'est un petit nounours avec trois composantes sonores qu'on peut rassembler ou séparer. Oui,
Je disais que comme on passe l'après-midi et que finalement vous restez à Bourges, il y a trois personnes, donc Julien, Joanna, Elsa, et peut-être on aura encore un tout petit bout de temps.
Pour discuter de façon un peu informelle, peut-être.
Si tu veux.
Non, moi je crois que je vous ai montré plein de trucs. Voilà, je voulais juste vous montrer rapidement ça, mais ça va être assez rapide. Ça, c'est un casque ouvert, hyper ouvert. Donc ça, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal bossé aussi, qui permet d'entendre tout en entendant ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ça, c'était un projet d'un élève, Nicolas Maîtresse. Ça, c'était Philippe Bajard. C'est en fait un système de multidiffusion dans une salle de soirée, en fait, c'est une boîte de nuit, sur l'eau. Ici, on voit et avec des dispositifs de diffusion qui sont complètement immersifs. Ça, c'est un corps des Alpes qu'on a créé avec le CFMI de Lille, en plastique plié et pas moulé, donc avec un coût de revient théoriquement beaucoup plus faible. Malheureusement, il n'a jamais été vraiment fabriqué en série, parce que le plastique plié, personne ne veut le faire. alors que c'est assez simple finalement, mais donc on n'a jamais trouvé la bonne formulation de la colle du PVC, alors qu'il suffisait qu'il y ait un chimiste qui se penche 10 minutes sur la question, il nous aurait fait ça. Donc ça c'est un dispositif internet sur la matériothèque où on fait entendre des matériaux en trouvant une manière de faire des gestes et des formes particulières qui permettent d'avoir une notion vraiment significative du son que peut rendre un matériau quand il est en situation d'utilisation. Voilà, PET. Ça c'est un projet très intéressant de Raphaël Pluvinage qui s'appelle Noisy Jelly. En fait, on fabrique des gelées, on les met sur cette planche, de la gelée avec de l'agar agar et des colorants. Et donc c'est mangeable pour les enfants, c'est très bien. Il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez la retrouver, ça s'appelle Noisy, N-O-I-Z-I, grec. Et on met ça sur cette plaque et en fait on peut jouer de la musique en touchant la gelée. Donc ça a pas mal marché aussi, voilà, ici. Aussi Raphaël Pluvinage qui fait des interfaces graphiques, en fait imprimées avec une visualisation, c'est-à-dire que ça, ce sont des résistances, en fait. Et donc, avec la position sur la main, on peut avoir... donc, d'abord, c'est très beau visuellement, et en même temps, c'est des composants électroniques. Donc, il a fait 5 bouquins pour les enfants sur tous les composants électroniques qu'on peut fabriquer avec du papier, des encres et des choses comme ça. Tu connais ce travail ?
Oui.
Donc, c'est vraiment très, très intéressant comme projet. Ça, c'est un projet qu'on avait présenté à Bourges en 2009, qui est ce sont des panneaux avec des vibreurs derrière et puis un petit bouton qui permet de déclencher des contenus sonores qu'on avait exposés à la galerie, à côté de l'église. Donc, en fait, chaque création était autour de...
L'autre rive,
voilà, c'est ça. Oui. C'était autour des objets, donc ça c'était fiction d'objets, donc ça c'était des imprimantes autonomes, chaque imprimante imprime une couleur et c'est un petit robot qui se balade avec sa couleur. Voilà, ça c'était un verre Duralex qui fait entendre le bruit des cantines qui est laissé gravé dedans, enfin voilà, toutes sortes de trucs assez marrants. La femme c'est une femme chamane avec un tambour sur le ventre, etc. Et ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, les formes qu'on a développées pour topophonie, qui sont des formes dynamiques qui changent de forme en fonction du contenu sonore. Chaque petite forme, en fait, est déclinable. C'est des formes paramétriques. Et ces formes paramétriques sont associées aux paramètres du son. Voilà, et ça donne ça. Ou ça. Et ça, c'est de la cartographie auditive. Donc, c'est de la cartographie. Quand on se balade dessus, on entend des sons. Donc là, on a la ville de Bordeaux. Là, on a la nuit blanche avec les contenus des œuvres, avec l'ambiance sur le lieu, avec les interviews des artistes. Ce qui nous donne un aperçu en fait de la nuit blanche, peut-être plus intéressant que sur un prospectus, parce que là, on se plonge directement dedans, même si on n'a pas l'image. On pourra aussi avoir de l'image, mais le son donne vraiment une information très très pertinente. Ça, c'est un travail sur la... Donc, Mathieu Rank, un projet de diplôme. Lui, il a travaillé sur le logiciel... c'est un des développeurs du logiciel Yanix, qui reprend l'UPIC de Xenakis. En fait, et là, on voit des têtes de lecture, les petites barres là, qui se promènent sur des axes. En fait, ce sont des trains qui rentrent dans une gare. Et en fait, il simule en fait, la gare avec l'arrivée des trains, pour essayer d'avoir une simulation de ce qui se passe au niveau auditif dans la gare, avec tous les mouvements des événements, du public, de la sonorisation et des trains. Où là, des véhicules qui passent, et donc on a un rendu en fait, dynamique de la manière dont une rue peut fonctionner. Ça, c'est de la navigation sonore du guidage audio, avec de l'itinéraire, avec du suivi, donc en preview. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un preview rapide de toc, cloc, 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 bouh, le train, et puis ensuite le bus. Et donc, on entend comment on va à sa destination, une espèce de résumé sonore. Et puis ensuite, quand on est in situ, on a les mêmes éléments avec les icônes qui nous donnent des notifications sur les événements du trajet. Voilà, ça, c'est des projets qu'on a développés comme ça, ça vous avez vu. Ça, c'est Radio Toki, j'en ai parlé. Design Radio également. Voilà. Et pour finir, donc, je vous engage à lire ça si ça vous intéresse, si la musique cinétique vous intéresse. J'ai fait un blog qui s'appelle kineticmusic.wordpress.com. Vous pouvez aller voir ce qu'il y a. Donc, ça donne quelques infos. Voilà. Je vous remercie beaucoup.
C'est nous qui
de votre patience.